d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Ce soir, je suis avec mes honorables confrères Ludo, Christophe et Thierry.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Et le vénérable Claude à la technique. C'est bien sûr Gilles au micro. Et nous parlerons donc ce soir du traité européen, bien sûr, parce que c'est d'actualité. Il va être voté bientôt au Parlement. On parlera également de la compétitivité des entreprises et des plans sociaux qui sont en nombre. Et oui, vous êtes toujours sur Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires. Bien, alors on va commencer cette émission haut en couleur, puisque bien sûr vous vous souvenez en 2005, le traité européen avait été au référendum majoritairement non, le non l'avait remporté avec 55% des voix. Il était repassé au Parlement et le Parlement avait voté oui, donc c'est-à-dire que la parole des Français ça n'a aucun sens de tenir compte de la parole des Français apparemment. Donc on remet la sauce aujourd'hui avec un nouveau traité européen. Donc Hollande avait promis de remodifier le contrat, en tout cas. Et ce nouveau traité va être voté bientôt au Parlement. Et donc les maîtres mots de ce traité sont, dans l'ordre, je vais vous le dire comme ça. Donc c'est effectivement la réduction de la dette publique, la stabilité, la croissance, un pacte budgétaire entre les États membres de l'euro, l'austérité. Voilà. Donc Ludo, toi qui t'es un peu penché sur la question de l'Europe et du traité européen,
comme tout le monde en ce moment,
je voudrais te poser une question peut-être que tu n'as pas. Tu vas me donner ton avis. Est-ce que tu penses que les Verts ont dit qu'ils avaient voté non à ce traité et les partis de gauche aussi, est-ce qu'ils ont eu raison de dire non à ce traité?
Alors là, écoute, non, je peux pas répondre à leur place. Hein. Vraiment, oh, j'étais pas.
Okay. Donc non. Question subsidiaire.
Donc c'était oui. Question subsidiaire, t'en as une autre.
Mais alors, en quoi consiste ce traité finalement alors,
Non, mais ce qui est bien, c'est que finalement, on a quand même l'impression que donc on s'était rendu compte qu'en 2005, une partie du PS avait appelé à voter non au référendum. D'ailleurs, à l'époque, c'était Laurent Fabius qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Voilà, et donc qui s'est chargé d'aller. Je suppose que c'est lui qui a en partie s'est chargé d'aller négocier ce nouveau traité. Et donc, les Verts avaient voté oui, effectivement, pour le traité les seuls. Enfin, pas les seuls, mais c'était dans la majorité, l'ex-majorité plurielle. Ils étaient encore, contrairement à leurs camarades communistes et autres, ils étaient encore au nom de leur européiste. Et donc, pour la première fois, ils ont voté non. Et bah, je vais pas dire que c'est une bonne nouvelle, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres personnes au Parti Socialiste qui prendront très très clairement position contre le traité européen. Donc, il y a des citations comme par exemple celle de Jacques Delors qui parle d'une règle d'or comme d'un piège à con. Donc, Jacques Delors, c'est quand même le père fondateur de l'Europe. Des gens comme Marine Lindemann. Bon, Marine Lindemann, c'est la gauche de la gauche. Mais de plus en plus, il est clair que, enfin, on va en tout cas pas vers une Europe sociale. Qu'on nous vante à chaque fois, puisque Elisabeth Guigou a dit que bon ben voilà, c'était une négociation et qu'on pouvait pas faire autrement, encore une fois, mais que c'était un pas vers une Europe plus juste et plus solidaire. Donc on la croit bien sûr. Et ben, qu'à terme, effectivement, il ne reste plus, en tout cas, que le Parti Socialiste finisse par être obligé de voter avec la droite pour adopter les traités, s'il y en a encore d'autres à venir, hein, les traités européens.
Alors oui, justement, en quoi consiste donc ce pacte de stabilité et de croissance, puisque on a vu que ce qui se dit dans la presse aujourd'hui, c'est quand même que c'est plus d'austérité, plus donc le cassage des services publics encore plus fort qu'aujourd'hui, tout ça pour effectivement arriver à 3%.
Alors c'est pas exactement ça. Alors effectivement, il y a un volet croissance. L'honnêteté nous oblige à le dire. Donc il se monte à peu près à 60 milliards d'euros, mais à niveau européen. Donc 60 milliards d'euros divisé par 27, sachant que juste par exemple, le budget de l'État français, c'est 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros, à peu près 360 milliards d'euros. En fait, c'est du saupoudrage. Bon, ça, je crois que tout le monde, tous les économistes sont d'accord là-dessus. Surtout, a priori, c'est 0,5% du PIB de déficit structurel. Le problème, c'est que le déficit structurel, personne ne sait ce que c'est, puisque, effectivement, dans les déficits qu'on connaît, il y a une part qui est importante, qui est liée en temps de crise à la perte de recettes fiscales. Hein. Et puis, un déficit structurel, bah, ça reste compliqué à définir en tant que tel. Hein. Peut-être que, effectivement, il y a trop d'écoles chez nous. Peut-être que ça coûte cher. Peut-être que c'est l'assurance maladie qui coûte cher. Donc, ça a des chances. Mais cela étant dit, c'est quand même le. Et puis bon, même pourquoi 0,5%, hein, et pourquoi pas 1, et pourquoi pas 0,8. Et bon, il y a eu un article récemment, qui est paru, je crois, c'est dans le Parisien, mais en fait, qui reprenait l'article d'un blog de celui qui a édicté la règle des 3% du PIB comme déficit budgétaire autorisé. Et donc c'était en 1981, je crois, 80-82, où il expliquait très clairement que c'était un choix qui était tout à fait arbitraire, un choix de communication, qu'ils avaient eu besoin de choisir un chiffre rond. Donc le 0,5, voilà, ça aurait pu être 1. Bon, donc voilà, donc 0,5 retenu. Et concrètement, ça veut dire qu'en fait c'est la Commission européenne qui va calculer le déficit apparemment pour chaque État. Donc on va laisser à la Commission européenne le soin de définir le déficit que la France ne devra pas dépasser. Je rappelle que la France et l'Allemagne ont fait exploser le critère de convergence de 3% du PIB en 2004, si je ne m'abuse, d'un commun accord, puisqu'elle pouvait pas le tenir. C'était les deux promotrices de cet accord de 3% de PIB, mais elles ont pas pu le tenir, alors elles l'ont fait sauter. Bon, là par contre ça va être 0,5, donc c'est cette fameuse règle d'or. Et ce qui est surtout très inquiétant, c'est que y a une perte de souveraineté budgétaire qui va de fait avec cette adoption de ce traité. Auparavant, en économie, on avait trois paramètres pour jouer sur la politique économique d'un État. Donc on avait la monnaie. Donc la monnaie, l'euro s'en est chargé. Parce que l'euro ne baisse pas, l'euro est fixe, l'euro ne fait, y a pas plus d'évaluation compétitive. On avait la politique industrielle. Donc la politique industrielle, le traité européen de Maastricht s'en est chargé, puisqu'il s'agit d'une concurrence libre et non faussée, et que l'État n'a plus le droit d'apporter de l'argent, de soutenir ces industries au nom d'une concurrence déloyale et de l'ouverture de ses propres marchés. Et il restait une chose, c'était le budget. Donc la capacité, même en temps de crise, de financer par l'emprunt, et effectivement de financer les investissements et les éventuels plans de relance. Et bien ça, l'Europe est en train de s'en charger. Donc on est en train de se priver de tout mécanisme, pour le coup, d'intervention de l'État ou des États, et même au niveau européen, parce qu'au niveau européen, l'impôt européen est ridicule. Ça représente 1,5% du PIB, par exemple. Et c'est tout à fait insuffisant pour mener quoi que ce soit comme politique. Donc, plus d'intervention économique dans les pays, en fait. Hein. Et donc là, il y a vraiment une perte de souveraineté budgétaire. Et quand on dit perte de souveraineté budgétaire, ça veut dire aussi une perte de souveraineté tout court, c'est-à-dire une annulation du choix démocratique, parce que demain, moi demain je vote Sarkozy, parce que ça, tout le monde sait à cette antenne
mes préférences, bien sûr, hein.
Et ben moi je suis désolé, mais non, et puis je suis convaincu que Sarkozy fera mieux qu'Hollande, alors je vais voter Sarkozy. Et ben je suis désolé, mais Sarkozy de toute façon avec ce traité il fera pas plus et pas moins qu'Hollande, hein. Il reste en termes de politique économique, ça sera à peu près, il restera à peu près le même coup. Alors je déconne, je vais voter Front de Gauche, et donc ils seront élus royalement.
Bien sûr.
Mais le Front de Gauche, avec ce traité-là, ils feront pas plus, pas moins.
Est-ce que tu sous-entends que les hommes politiques n'ont aucun pouvoir et qu'en fait c'est la finance qui gouverne aujourd'hui les États?
Alors ça pourrait être la finance, je veux dire via les problèmes d'endettement, mais non, là c'est pas la finance, c'est la Commission européenne. C'est pas pareil. C'est les caractères contraignants de la super technocratie européenne qui impose ça. Et alors, on peut noter quand même l'empressement de François Hollande à se plier au diktat de la Commission européenne, puisque dans la loi organique qu'il est en train de faire voter, les objectifs restent quand même flous, hein. Je veux dire, par exemple, on a dit 0,5% du pays, 0,5% du PIB de dette, oui. Hors conjoncture exceptionnelle et mesures légitimes. qu'un État peut prendre. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon, ça veut dire qu'on peut, on pourrait quand même se réserver éventuellement le droit de ne pas respecter les 0,5%, donc une marge de manœuvre. Bon, et ben lui, il a décidé d'inscrire dans la loi le fait que désormais, pour 3 ans, on sera obligé de l'État français sera obligé de définir une trajectoire d'efforts structurels. Vous avez entendu effort structurel, donc plan d'ajustement structurel. Effort structurel, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire de réduction, donc en l'occurrence des déficits, et surtout de créer un haut conseil des finances publiques qui siégera à côté de la Cour des comptes, dont les membres seront nommés pour 6 ans, donc non renouvelables, et qui, eux, disposeront d'un mécanisme de correction automatique pour résorber les écarts entre les prévisions budgétaires et les résultats obtenu, ce qui veut dire entre les prévisions budgétaires qui sont établies l'année précédente ou au moment où vote le budget, et puis les résultats réels de recettes, de rentrées, de recettes et d'argent. Donc une correction automatique, ce qui signifie découpe automatique, ça décliné pour chaque administration, sachant que les collectivités territoriales sont aussi concernées. Je rappelle que aujourd'hui, par exemple, les collectivités territoriales, c'est elles qui financent le RMI. Et que pour certaines, c'est la croix et la bannière, et qu'elles vivent sur l'emprunt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles sont endettées. Et le fait le plus grave, c'est que sont concernés aussi les budgets sociaux. Et les budgets sociaux, en l'occurrence, c'est la sécurité sociale et l'assurance maladie. Ce qui veut dire, tout ça étant présenté...
Donc les retraites.
Et les retraites, l'assurance maladie et les retraites. Tout ça étant évidemment présenté pour agrément à la Commission européenne. Ce qui veut dire que en filigrane, demain, la Commission européenne pourra tout à fait contraindre n'importe quel État à faire des réformes, par exemple sur l'âge de sa retraite ou sur la couverture maladie de chaque État.
Et si ce n'est pas respecté, il y a des sanctions ?
Alors exactement. C'est-à-dire que si effectivement l'État d'abord il risque des amendes, donc des amendes importantes, mais vous me direz
10 milliards d'euros.
Voilà. Alors l'État français avait pris l'habitude de ne pas respecter les amendes de la Commission européenne, sauf qu'il peut, dans ce cas-là, aller à la Cour de justice européenne et être condamné par la Cour de justice européenne. Et là, normalement, c'est contraignant. Et donc, alors sur le traité, là, les dispositions que je viens de lire, donc, vous pouvez trouver ça dans donc, le monde diplomatique de ce mois-ci de Marc-Raoul Génard, qui connaît très très bien tout à fait les institutions européennes, et c'est lui qui en parle le mieux. Mais en conclusion, avec cette règle-là des 0,5% du PIB de dette structurelle à ne pas dépasser, en fait, on va fermer la possibilité à l'État d'emprunter dans l'avenir. Je rappelle que jusqu'à maintenant, on a eu une croissance qui était à crédit, et que l'État, finalement, a résorbé ses problèmes de crise, on va dire, hérités des années 70, par un emprunt perpétuel, ce qui nous vaut aujourd'hui la dette, mais qui a permis aux États de continuer à fonctionner, et en l'occurrence, de payer les retraites des gens. En fermant ce robinet à crédit, on ouvrira la porte, tout simplement, à toutes les privatisations possibles, puisque l'État n'aura plus du tout les moyens de se financer. D'où les propositions qui sont, de bon sens, on a presque envie de dire, on se permet, à ce micro, mais en tout cas que prônent tous les économistes, et pas seulement des économistes hétérodoxes, même des Américains, finissent par dire, mais c'est un non-sens absolu, tant qu'on ne réformera pas une bonne fois pour toutes la Banque Centrale Européenne, que cette Banque Centrale Européenne n'aura pas la possibilité cette fois de dévaluer, de reprendre de la création monétaire, d'émettre des liquidités, de jouer le rôle, on aura le rôle normal d'une banque centrale d'un État qui consiste à financer l'État en question, ça s'est toujours fait comme ça, y compris aux États-Unis, et bien tant qu'on restera là-dedans, en fait on sera condamné, les peuples européens seront condamnés à une austérité permanente.
Oui, mais dans le contrat aussi, il parle aussi des pauvres sur le RSA où ils seront obligés d'aller travailler, que ce soit dans n'importe quel État. C'est-à-dire qu'un pauvre ne pourra plus voyager en Europe en disant « Ah ben, moi je vais prendre le RSA en France, je viens en France prendre le RSA, ça me permet mieux de vivre parce que je ne travaillerai pas. » Eh ben non, dans le traité, tout le monde travaillera 7 heures par jour. par mois.
Eh ben, le STO, c'est une bonne chose, écoute.
Obligatoire ou payer selon la base du SMIC ou alors payer un euro comme en Angleterre, comme en Allemagne.
Et bah, ça se fait déjà en Allemagne.
Oui, et ça sera dans tous les pays européens.
Oui, oui, je suis d'accord avec toi.
Et alors, ça ferait une grosse merde.
Alors, faut savoir quand même que pour arriver le projet, justement, le budget 2013 de la politique française aujourd'hui, fiscale, hein, c'est quand même d'arriver à économiser 40 milliards d'euros, donc, en tout cas de gagner 40 milliards d'euros
à la fois par l'impôt.
Sur l'exercice, donc, sur, effectivement, par l'impôt, donc pour deux tiers. Et puis un tiers part effectivement
par des coupes budgétaires
absolument. Voilà. Donc ça veut dire quand même que le maintien du gel du barème de l'impôt sur les revenus, par exemple, sont accompagnés d'une décote pour les plus modestes. C'est vrai qu'on va toucher de 16 millions de foyers. Hein, c'est 16 millions de foyers qui vont payer plus d'impôts aussi. Et donc ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'attaque pas justement les parce qu'on sait. En tout cas, j'ai eu vent par les informations télévisuelles qu'effectivement, il y avait 50% des bénéfices des entreprises qui partaient dans les paradis fiscaux. Alors, est-ce que c'est un chiffre qu'il faut vérifier? Certainement. Est-ce que, justement, on ne peut pas, pas réintégrer Schengen, mais en fait, faire en sorte que les frontières se ferment un petit peu et puis empêcher les capitaux de sortir et puis empêcher les délocalisations? Peut-être que là, il y a aussi de l'argent à récupérer.
Le contrôle des capitaux existe. Hein. Je veux dire, il peut être fonctionnel. Les Chinois le font très bien. Donc, simplement, en libéralisant les capitaux, en permettant la libre circulation des capitaux, la conclusion logique, c'est qu'ils vont de toute façon n'importe où. Et puis la deuxième chose, c'est que chaque pays se complaît apparemment à avoir son propre paradis fiscal pour faire des choses, des choses qui lui l'intéressent. Non. Je sais pas quoi exactement, mais en l'occurrence, Monaco est un paradis fiscal français. Je veux dire, qui dépend de l'État français. Hein. C'est pas un royaume indépendant. Donc, en Angleterre, ils ont l'île de Jersey. C'est peut-être aussi un problème entre États.
Sauf que l'Angleterre n'est pas dans la zone euro. Elle est dans l'Europe et pas dans la zone euro, a priori.
Oui, mais je veux dire, d'une manière ou d'une autre, on parle de paradis fiscal, mais le Luxembourg en est, il est dans l'Europe. Donc, est-ce que ça pose même à l'intérieur de l'Europe? Après, qu'il y ait un contrôle des capitaux au niveau européen, ça, je pense que c'est
quelque chose. La Belgique a déjà commencé à faire. Il y avait ses signaux là-dessus. Hein. Elle a remarqué qu'il y avait certaines usines qui mettaient des capitaux en Suisse et qui ont commencé à amender leurs usines, leur patronat qui mettait de l'argent en Suisse.
Hein. C'est bien, le jour où l'État reprendra les moyens de contraindre, ce qui n'est pas encore le cas, mais de contraindre les chefs d'entreprise. Hein.
Alors toujours dans le projet de budget 2013, il y a quand même deux bonnes nouvelles, c'est que la fiscalité des revenus du capital, plus-value immobilière, intérêts et dividendes, sont désormais alignées sur celles des revenus du travail. Ça, c'est une bonne chose. On va voir comment ça va être mis sur le terrain. Hein. Et puis, il y a effectivement une remise en cause de l'allègement de l'impôt sur la fortune. On espère que ça va vraiment se faire et qu'on va peut-être récupérer un peu d'argent pour arriver à nos fins. Une petite chanson et ensuite, on reprend la parole. Merci.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite. Petite cantate qui monte vers toi, cette petite cantate qui monte vers toi. Si milore, si milore, si sale d'enfant.
Et oui, c'était la petite cantate de Barbara, bien sûr, une très grande chanteuse que nous adorons tous ici, évidemment. Donc on reprend cette émission, c'est Mode d'emploi, la mission des chômeurs précaires sur Fréquence Paperiel, la superbe station parisienne qui vous dit pas que des conneries, par rapport aux autres qui en disent beaucoup et qui sont eux d'État, etc., etc. Enfin, on va s'arrêter là. Et donc tu voulais reprendre la parole sur le traité européen, nous dire un petit peu les conséquences de ce traité, Christophe.
Ludovic a bien résumé la situation. Il fallait trouver des mecs. D'abord, c'est une orthodoxie libérale, c'est-à-dire que c'est le fait de trouver des mécanismes pour que les États n'aient plus leur souveraineté au niveau budgétaire, au niveau de la protection et la libre circulation des biens et des capitaux, mais également pour qu'on en arrive à la fin des retraites à une privatisation générale. Donc ça a été fait. Aujourd'hui, moi je constate qu'aucun socialiste modéré ne s'interroge sur le bien fondé qu'une commission technique faite de hauts fonctionnaires va statuer sur le devenir du budget de la France. Enfin, c'est quand même une aberration. Et ça démontre, par contre, ça peut avoir un intérêt politique. C'est-à-dire que ça démontre que l'analyse de M. Mélenchon et, entre autres, et toutes ces courants idéologiques est totalement fondée. C'est-à-dire que M. Mélenchon, depuis des années, il dit c'est quand même une aberration que la Banque Centrale Européenne n'ait pas le droit de dévaluer la monnaie, n'ait pas le droit de prêter aux États, alors que les États-Unis eux-mêmes le font. Enfin, on est dans une erreur économique historique, c'est-à-dire que cette dette, de fait, on l'a créée pour la haute finance. Donc, sachant que donc la conséquence de ça, je pense qu'au niveau politique, ça peut être intéressant parce que le front de gauche et puis toutes ces idées qui sont autour de ça peuvent se structurer sur ce nom ultra-libéral. Voilà, donc ça va poser une question et de fond, quoi, tôt ou tard, parmi les différents courants de la gauche. D'un autre côté, on a une autre problématique, c'est que je ne sais pas si le président de la République actuellement se rend compte de ce qu'il est en train de signer. C'est-à-dire que lui, enfin, en fait, il y a une projection qui est comme quoi le plus dur de la crise est passé. Et ce n'est pas vrai.
Non, ce n'est pas vrai. Monsieur.
C'est pas vrai. On va parler des licenciements et des plans sociaux qu'il y a actuellement. Le plus gros de la crise n'est pas passé. C'est totalement faux. Parce que pour l'instant, on a eu la bulle Internet, on a eu la crise des subprimes, des emprunts toxiques. Mais il y a aussi d'autres mécanismes pervers de l'économie financière qui vont exister. Que ça soit les emprunts d'État qui ont été recapitalisés sur d'autres types, sur des produits financiers à haut risque, etc., etc. C'est comme la dette grecque.
Et une crise bancaire en Espagne, par exemple, aussi, c'est pas exclu.
Impressionnant.
Voilà. Donc, c'est là où on arrive à un problème de fond, c'est que malgré la dette, la dette en France, elle existe depuis bien avant le choc pétrolier. Hein, l'État était endetté parce qu'il y a eu le plan Marshall, il y a eu le besoin historique de se refinancer, mais la croissance se faisait parce que d'abord, il y avait beaucoup moins de chômage, et puis au-delà de ça, dans les négociations salariales, il y avait quand même des retours de dividendes et puis des salaires qui augmentaient sans être conséquents. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'INSEE l'a très bien démontré, dans les années 70, les Français, ils s'enrichissaient par le travail. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire on perd de l'argent tous les ans. Et c'est là où on va avoir une véritable problématique sociale de fond, quoi. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de l'Espagne et de la Grèce, mais bientôt on va parler de la France.
Bien sûr.
Ça, faut pas se leurrer, quoi. Et je suis quand même un peu surpris que tout le courant keynésien qui a promu après la crise de 29 historiquement aux États-Unis avec Roosevelt le New Deal, que personne n'ose dire quelque chose en disant mais vous êtes en train de vous tirer vous autodétruire, quoi.
Non, c'est pas exact, hein. Il y a des tas de d'économistes, mais sauf qu'aujourd'hui les économistes keynésiens, on les appelle les économistes hétérodoxes. Mais il me semble que le consensus est relativement large auprès d'un grand nombre d'économistes, y compris qui ne sont pas keynésiens, pour dire qu'on est en train de faire n'importe quoi. Absolument. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. C'est vraiment une volonté de la Commission européenne, c'est mon avis, hein, de la Commission européenne dans son dogme libéral. Je ne comprends ça que comme ça, son dogme d'ordo-libéral.
D'orthodoxie, presque.
D'orthodoxie, l'ordo-libéral. L'équilibre des comptes, ouais. La non-intervention de l'État, les marchés.
En plus, ce sont des gens, des experts, etc. qui sont nommés par des gouvernants.
Ah, je pense aussi que c'est une volonté, enfin, que c'est le modèle allemand, que l'Allemagne a imposé sa volonté et son modèle économique au reste de l'Europe. Moi, j'en suis convaincu parce que finalement, les recettes.
Mais bien sûr.
Qu'elles préconisent pour tout le monde, c'est les recettes qu'elle s'est appliquées.
Mais bien sûr, mais je vais te dire pourquoi. Parce que ce que oublient de dire les économistes allemands globalement et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a une particularité. Ils sont partis après la guerre de zéro. De zéro en étant sous tutelle, etc. On va pas. Bon. Mais ils ont fait le choix de créer de la richesse à travers le tissu industriel. C'est-à-dire qu'alors que les autres pays faisaient des emplois de service, principalement, eux ont décidé de promouvoir la qualité Mann in Allemagne.
D'abord, ça a toujours été une caractéristique de l'économie allemande, et puis je suis pas d'accord, l'économie française dans les années 50 avait aussi une forte, la part d'industrie était très forte.
Et je veux
la réduction de l'industrie,
mais il y a eu ensuite un tournant au moment de la crise pétrolière. Les Allemands, malgré ce tournant énergétique, ont décidé de toujours conserver leur produit intérieur brut. Alors évidemment, comme ils s'enrichissent au niveau de la balance commerciale extérieure, ils peuvent imposer, du fait de ces excédents...
Bien sûr, parce que c'est eux qui portent l'euro.
Des économies aux autres. Mais le problème, c'est que ce qu'ils oublient, c'est que tôt ou tard, c'est qu'aujourd'hui, 50% des échanges économiques extérieurs, intérieurs au niveau de l'Allemagne sont faits avec la France. Si jamais la France...
Avec l'Europe.
T'imagines, les pays ne peuvent plus acheter. L'Allemagne,
ils peuvent plus vendre.
C'est-à-dire qu'en fait, à force de détruire la demande intérieure, et là en l'occurrence au niveau européen, eh bien en fait, on risque de provoquer. Enfin, on est dans une récession et la récession risque de s'aggraver.
Le problème, c'est que ça fait boule de neige. C'est ça.
Mais oui. Et alors, une précision par rapport à ça, c'est que qui est important, c'est que les Chinois l'ont bien compris. Eux, pourquoi aujourd'hui ils dévaluent leur monnaie? Parce que qu'est-ce qu'ils veulent créer? Ils veulent améliorer le niveau de vie global de la Chine et créer un marché intérieur. Parce qu'ils savent très bien que les échanges bilatéraux et les échanges mondiaux ne leur seront pas favorables au bout d'un moment. C'est ça leur logique. Et nous, on fait contraire.
Ouais, oui, mais... sauf que l'Espagne exporte énormément, alors que nous, en France, on exporte beaucoup moins. Ça serait sûr.
Ouais, il faut savoir aussi.
Cette raison. L'Italie aussi.
Ouais, mais il faut savoir aussi que. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui nous tombe sur la gueule, c'est que la CSG va augmenter.
La CSG? On n'en sait pas plus, mais c'est possible.
On ne sait pas quel choix sera fait, si c'est la TVA sociale, la CSG ou autre chose. Quoi. Pour l'instant,
les impôts vont augmenter de toute façon.
Ça, c'est sûr.
Le problème de la CSG, c'est que ça ne touche pas forcément les revenus du capitaux, semble-t-il. Enfin, en tout cas, pas les revenus financiers.
C'est les revenus du travail.
En principe, la CSG, c'est contribution sociale généralisée, donc ça touche un peu tout le monde, y compris sur ta feuille d'impôt.
C'est sûr.
Mais c'est vrai que les revenus de la bourse, ça, des transactions financières...
Sur ta fiche de paye, t'as CSG...
Oui, tous les revenus.
Un dernier point sur le traité budgétaire. Je suis quand même un peu surpris aujourd'hui que la notion de protectionnisme soit taboue et inexistante dans les débats. On paye les retraites des Chinois. Hein.
Justement, on peut en profiter pour passer au deuxième sujet de ce soir, parce que pour arriver à faire une bonne Europe, peut-être qu'il faut faire en sorte que les entreprises soient très compétitives. Donc on a vu qu'il y avait un rapport gallois qui allait être bientôt mis sur le terrain, un rapport qui allait bientôt arriver.
Sur le marché.
Sur la demande de Mme Parisot et de M. Moscovici. Comment il s'appelle?
Pierre Moscovici.
Alors, est-ce que effectivement les entreprises françaises sont compétitives sur le marché? Alors dis-moi un peu.
Écoute, je t'ai pas repris parce que en fait, le lapsus. mais le lapsus est tout à fait révélateur. C'est-à-dire que tu as dit. Parce qu'en fait, on va le dire, on arrive au dieu, il faut parler de la compétitivité. Et donc, tu commences par nos industries sont-elles compétitives?
Et
c'est tout à fait le flou de cette notion. Là, il ne s'agit pas d'entreprise compétitive, il s'agit de la compétitivité avec un grand C appliqué à tout le monde.
D'accord.
Donc, c'est une notion qui, encore une fois, européenne. Bon. Donc, la compétitivité appliquée à tout le monde. Alors, au départ, il s'agissait de la compétitivité des entreprises. Donc c'est un petit morceau, c'est une notion microéconomique donc évidemment la compétitivité des entreprises ça veut dire être concurrencé sur le marché et donc vendre moins cher et donc jouer sur tes coûts sur tes coûts de production donc éventuellement ça peut être baisser les salaires, c'est un coût de production, mais ça peut être tes investissements. Ça peut être indirectement, ça peut être aussi ta monnaie ou la TVA, ta TVA sociale. Bon, ça peut jouer. Bon, il y a un certain nombre de notions comme ça qui font que, à la limite, quand on parle de compétitivité des entreprises, on s'y retrouve. Alors, aujourd'hui, c'est le débat qui vient. D'ailleurs, il y a un article dans Le Monde diplomatique auquel je vous renvoie parce qu'il est bien mieux foutu que tout ce que je
pourrais dire.
De ce mois-ci, qui s'appelle Le mythe de la compétitivité. La compétitivité est devenue l'alpha et l'oméga des discours européens. On entend ça à toutes les sauces. Et donc, le seul remède à la crise, c'est augmenter la compétitivité. Le problème, c'est que la compétitivité, là, elle est placée à la fois au niveau des régions, voire au niveau des États. Or, une notion de cette manière placée à un niveau régional ou à un niveau des États, c'est une notion qui ne veut pas dire grand-chose ou qui prend tellement de facteurs en compte que on n'est pas très sûr de s'y retrouver. Alors la seule chose, c'est qu'on produit des indicateurs de compétitivité par pays. Et donc, c'est des milieux d'affaires qui font ça, en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont pas forcément très efficaces. Donc, pour donner un exemple, quel est aujourd'hui le premier pays en tête du classement de la compétitivité ?
L'Allemagne ?
Non, c'est la Suisse.
La Suisse, d'accord.
Bon, moi, je ne sais pas personnellement ce que la Suisse produit de si phénoménal pour être compétitive.
Bah, des banques, peut-être, non ?
Ah, ben, alors voilà, donc déjà sur ce classement-là, sur cette façon. Et ça, en fait, c'est censé, si tu veux définir, un intérêt pour l'attractivité des régions ou des pays concernés. L'attractivité pour les investisseurs, bien entendu. Ces classements, ils sont là pour ça, hein, pour savoir où tu veux investir ton argent. Or, l'attractivité.
Est-ce que ça sous-entend pas plutôt qu'il est question, quand on parle de compétitivité, avec un grand C, tout simplement de parler de désindustrialisation, de réindustrialisation, voilà.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la compétitivité. Le problème, c'est que le mythe de la compétitivité, on ne sait même pas ce que c'est. Je veux dire, au sens où, par exemple, l'économie grecque n'est pas assez compétitive, alors il faut l'entendre par « elle n'exporte pas assez ». Mais en même temps, en Europe, on est dans un gentleman agreement, et donc elle importe tout ce qui lui est nécessaire d'Europe, en l'occurrence d'Allemagne. Et si elle importe pas d'Allemagne, ça veut dire qu'elle devrait concurrencer l'Allemagne. C'est ce que je veux dire. Donc, ou alors, elle devrait être compétitive par rapport à d'autres zones. Et donc, il faut qu'elle définisse ces zones, ces marchés potentiels où elle devrait exporter. Donc, en résumé, la compétitivité, ça veut juste dire la concurrence. La concurrence des uns avec les autres. Ouais, ce n'est rien d'autre. Et plus que ça, la concurrence des territoires les uns avec les autres. Du tout concurrentiel. Or, en faire l'alpha et l'oméga d'une politique économique, c'est-à-dire de mettre en exergue la compétitivité de chaque territoire, sachant que chaque territoire est compétitif entre lui-même. Je rappelle quand même que la zone euro reste une zone, la première zone où on exporte nos produits, où la Grèce exporte nos produits, où l'Allemagne exporte ses produits avant d'exporter dans le reste du monde. On n'est pas sûr que ce soit un discours, viable qui pourrait servir de politique économique en tant que telle.
Oui, mais tout à l'heure quand je parlais de réindustrialiser les entreprises, enfin en tout cas au niveau de l'industrie. C'était effectivement faire en sorte que les gens qui travaillent dans ces industries ne soient pas... D'abord, ces industries ne sont pas délocalisées et qu'on ne soit pas dans des plans de licenciement. Parce que ce sont les ouvriers quand même qui font les produits. C'est grâce à ces produits que le patron gagne de l'argent et qu'il peut donner de l'argent, des dividendes à ses actionnaires. Sans ses ouvriers, le patron, il n'a rien.
Sauf s'il délocalise.
Sauf s'il délocalise, voilà.
Donc, voilà. Je veux dire, on peut parler de Florange plus tard, mais je veux dire, quand tu as des multinationales qui ont la possibilité, effectivement, qui ont 4 sites répartis dans... ou 15 sites répartis dans 10 pays, qui font jouer les avantages comparatifs entre les uns et les autres. C'est ça aussi, la compétitivité des entreprises. Donc, c'est savoir privilégier le bon territoire par rapport au mauvais.
C'est une signature de marché, en fait. Florent,
exactement. Et donc, en l'occurrence, Florange est un mauvais. Et il n'est pas assez compétitif.
Oui, mais est-ce que tu ne penses pas que la compétitivité, plus il y aura d'ouvriers dans les boîtes, plus on fera de produits, plus on pourra être compétitif avec d'autres pays pour gagner, pour que le patron gagne plus d'argent et qu'il soit plus compétitif.
Il faut des débouchés pour un marché. Et puis la question, est-ce que par exemple tu peux rivaliser avec l'industrie chinoise aujourd'hui ? Parce que le coût.
Non, mais il faut baisser la taxe patronale.
Voilà, c'est compliqué.
Non,
écoute, dis-moi.
On en arrive toujours au même point. C'est la notion d'harmonisation fiscale au niveau des États européens, entre autres,
oui.
Premièrement, et la notion par rapport à la zone euro de protectionnisme. Quand Pascal Lamy, ancien député socialiste, grand copain de Martine Aubry, au moment de l'OCDE, va négocier un accord bilatéral qui permet d'engendrer la liberté des échanges, il tue des dizaines de milliers d'emplois dans l'Europe, y compris en France. Et il est là le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, on a des hauts fonctionnaires ou des anciens hauts fonctionnaires qui sont dans le tissu industriel, qui sont pour certains d'entre eux de talentueux capitaines d'industrie, mais qui sont tous d'orthodoxie libérale. C'est-à-dire, la logique, c'est quoi? La logique, c'est la notion d'argent, point barre.
Oui, c'est vrai.
Non, mais faut pas se leurrer, quoi.
Merci, Christophe. On va écouter une petite chanson, puis on reprendra après la parole sur le problème des licenciements aux entreprises.
Comme une piaffe au masculin.
Et oui, vous êtes toujours avec la superbe équipe de Mode d'emploi, Fréquence pas pluriel, 106.3 FM. Bien sûr, ce soir, on est vendredi. C'est l'émission des chômeurs et des précaires. Vous écoutiez à l'instant Claude Nougaro, c'était comme une piaffe, c'est une chanson assez sympa d'ailleurs, hein, on peut le dire. Donc on va reprendre cette émission en parlant bien sûr de ce qui nous désespère un peu, c'est effectivement les boîtes qui vont donc déposer bilan pour se délocaliser peut-être. Et ça va être entre 45 000 et 80 000 personnes licenciées dans peu de temps. Donc
on va dire deux ans, 70 000 à 80 000 emplois industriels qui vont... fermé d'ici à 2-3 ans.
Oui, mais ce qui veut dire quand même 300 000 chômeurs de plus au mois de décembre, peut-être.
Selon les prévisions.
Oui. Alors, je fais un petit rappel historique, forcément polémique. Avant la campagne présidentielle, l'ancienne majorité disait que tout allait bien dans le malheur, puisqu'on allait avoir que quelques milliers de suppressions d'emplois. Et on apprend après la campagne présidentielle qu'en fait, c'est une hécatombe. Mais dans ces histoires d'hécatombe, bon, ça fait des années que ça dure, ce genre de choses, il y a aussi des logiques qui sont totalement absurdes. Alors l'exemple flagrant, mais on pourrait en parler sur d'autres industries, là je vais faire un topo global, c'est Fralib. Donc d'après il y a le site de Gemenos, dans les Bouches du Rhône, qui est économiquement viable. C'est-à-dire que, ils gagnent de l'argent. Les gars de Gemenos, c'est quoi? C'est ceux qui conditionnent les thés, les tisanes, qui ont été récemment rachetés par la communauté urbaine de Marseille, puisque c'est eux qui font le thé vert, éléphant, etc. On connaît tous cette marque de nom. Donc, Unilever, qui est un grand groupe, une grande multinationale internationale, campe toujours sur sa position, ne pas lâcher la marque d'infusion éléphant et ne pas assurer l'achat temporaire d'un volume de production qui permettrait, tout ça, devinez quoi, à une coopérative d'ouvriers de naître et d'être viable. Parce que quand les salariés de Gemenos se sont rendus compte qu'on leur faisait légèrement par derrière, et au nom du capitalisme financier, ils sont commencé à s'organiser en coopérative, puisque le produit est viable et coté et connu de l'ensemble du territoire des Français et en Europe. C'est une marque, hein. Donc, le résultat de cette restructuration, ça serait rajouter 15 camions quotidiens entre la Pologne et la France pour des coûts de production. Et les syndicats sont très clairs, puisqu'ils disent, aujourd'hui, c'est au gouvernement de faire des pressions, la balle est dans son camp. Pendant la campagne présidentielle, tous les candidats de gauche sont venus dans notre usine, nous les avions pas appelés, c'est à eux d'agir maintenant. Donc, la réaction... Du vice-président du groupe du Front de Gauche au conseil régional PACA, présent dans les rassemblements, Jacques Le Richaume, est sur la même longueur d'onde. Les salariés ont un projet viable de SCOP, c'est donc une société d'économie, de coopération et d'économie mixte, hein. Mais il y a un blocage d'Unilever. Ce gouvernement de gauche doit prendre ses responsabilités et réquisitionner la marque éléphant si nécessaire. Il y a aujourd'hui un vrai danger que l'on balade les salariés de Fralib comme on l'a fait avec ceux de la sidérurgie Lorraine. On va en reparler. Donc, dans l'attente de prochaines réunions, le futur de Fralib va être surtout judiciaire avec les amendes bientôt, en octobre, devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de la troisième monture du plan social. Donc, c'est purement et simplement financier. C'est-à-dire que c'est une marque qui gagne de l'argent, les salaires sont payés, on peut même augmenter un peu le salariat le coût de production, mais c'est la logique financière qui l'emporte.
Oui, il faut savoir que Fralib Fralib, ils vont vendre Fralib Toulouse. Ouais. C'est une autre boîte qui va racheter Fralib. à tout.
Non, on s'en est pas sûr justement, parce que ça fait partie des contre-propositions qui sont proposées par la marque de thé. Mais pour l'instant, tout est en négociation. On attend le résultat du plan social qui va être proposé au niveau judiciaire à la cour d'Aix-en-Provence. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça ne concerne que Framling? Maintenant, on va vous citer un certain nombre d'entreprises qui prennent ceci en pleine figure, ces licenciements boursiers. Donc, on ne les présente plus. ArcelorMittal, PSA, Continental, Sanofi, rebaptisé Sanofric, Thales, Fralib, Acmema, Petroplus, Technicolor, Doux, Pilpa, Virgin, Carrefour, avec ses milliards de bénéfices, Sodimécal, 3-6, Ford, ainsi que, bien sûr, l'hôpital public. Alors, pour bien comprendre à nos auditeurs qu'il se passe, on va vous donner un chiffre. Chez Sanofi, les 9 milliards d'euros de bénéfices du groupe n'empêchent pas non plus une entreprise pharmaceutique de vouloir sacrifier 1000 à 2000 postes, sachant qu'on parle de postes de très haut niveau, hein, donc de chercheurs minimum bac plus 5, bac plus 8. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les salariés commencent un peu à se révolter contre cette logique financière où les dividendes des uns ne sont pas suffisamment élevés à leur goût, alors que et bien sûr cela se fait au détriment des salariés. Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe? Certaines sociétés créent eux-mêmes via leurs ouvriers et les différents millions d'euros qu'ils ont sécurisés avec leurs droits sociaux des alternatives de sociétés d'économie mixte de type coopérative, ce qui est, on est en fait dans la logique d'économie sociale et solidaire. C'est un retour, c'est intéressant, mais voilà, il y a un problème, c'est qu'il serait bien qu'un jour l'interdiction des licenciements boursiers se fasse, et ça ne peut évidemment, selon Marie Lecomte, porte-parole du collectif Licenciedel, passer que par une mobilisation commune et importante. Et évidemment, pendant ce temps-là, puisque nous avons un super ministre du redressement productif,
Monsieur Montebourg, oui.
Mais voilà, un brave homme. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on commence un peu à voir le vent du boulet, parce que je rappelle que les municipales, c'est dans pas trop longtemps. Oui, c'est... Donc, le retour de flamme risque d'être très conséquent. Donc, eh bien, figurez-vous que on commence à réagir dans les hautes sphères de la politique française. Donc, en cause, c'est que le groupe sidérurgique ArcelorMittal a confirmé la fermeture définitive donc des hauts fourneaux du site de Florange, en Moselle, qui est compétitif et qui gagne de l'argent, rappelons-le. 629 personnes sur le carreau. Et alors, devinez quoi? Devinez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, grande déclaration. Monsieur David Assouline, député, estime qu'on ne peut pas sacrifier au nom d'intérêts financiers immédiats les êtres humains. Or, estimant que l'acier, on en a besoin, on en aura toujours besoin. On est bien d'accord avec lui. Vivez sans acier, vous avez à avoir un peu moins de confort. Entre autres, notamment au niveau voiture. Mais ce que nous disons là, je le cite, hein, c'est qu'il y a urgence. Il ne faut pas que la négociation soit quelque chose qui fasse traîner des décisions trop longtemps, quand pour des salariés, c'est une question d'urgence sociale absolue immédiate, dit-il. Il faut que cette négociation avance au plus vite pour que les parlementaires puissent décider de la législation à adopter pour rendre ce genre de pratique impossible et pour permettre la reprise d'activité et de trouver des repreneurs le plus vite possible. Ah ! Au gouvernement et dans certaines sphères de l'Assemblée nationale, on s'interroge sur l'idée de pour que l'État mette un peu son nez dans ce fratras financier ultra-libre, ultra-libéral, et qu'on commence à mettre quelques petits mécanismes de régulation. Qu'est-ce que vous en pensez tous, là, sur cette idée?
Oui, mais ça dépend comment ils vont mettre le nez dedans, si c'est pour dire, bon, ben, ça c'est bon, et ça c'est pas bon, vous dégagez. Ça va faire pareil.
Moi, je pense que l'argent va à l'argent et puis que ça continuera. C'est depuis l'ombre de l'humanité, c'était comme ça, et ça va continuer encore des années.
Merci, Gilles.
Heureusement, je suis là, hein, finalement. Parce que les petites mains, ils bossent, ils ont un salaire moyen, et puis finalement, ils finissent par se faire licencier. C'est quand même.
Tu parlais bien de Florange, là.
Florange, ah, absolument.
Ouais, ouais. Ouais. Mais en fait, le problème de Florange, comme on l'a dit, c'est que c'est un groupe en fait international. Et ouais. Je pense que la première gaffe de nos gouvernements précédents, c'est d'avoir accepté l'OPA de Mittal sur Arcelor. Ouais. Et ça, c'est une grosse connerie, puisqu'effectivement, Monsieur Mittal, en fait, certes, il est indien, mais son groupe est disposé essentiellement en Amérique du Nord, et en Angleterre et en Europe. Et pas du tout. Et donc, lui, son truc, ça a été en fait de rationaliser, entre guillemets, la production, c'est-à-dire de la rentabiliser. Et il a eu un coup de bol inouï, un coup de bol qui était relativement prévisible, c'est que les demandes d'acier en provenance de la Chine,
des pays émergents,
et des pays émergents, du Brésil aussi, ont explosé. Ce qui fait qu'ils ont fait monter les cours du métal, les cours de l'acier. Donc il s'est véritablement construit un petit empire.
Il s'est enrichi.
Il est multimilliardaire.
Voilà, il est multimilliardaire. Pour autant, ça ne veut pas dire que la sidérurgie française, vendait plus, forcément. On veut dire simplement que il vendait plus cher.
C'est le coût du produit qui ramenait de l'argent.
Il vendait plus cher. Et en plus, il y a eu un deuxième effet, c'est que la production de matières premières est devenue très très chère elle aussi. Et curieusement, il a fallu à un moment donné, en fait, elle a empiété sur le coût de fabrication. Je m'explique, c'est qu'en fait, si plus votre matière première coûte cher, et plus votre produit il est cher à fabriquer. Donc la répercussion, elle a lieu ou pas. C'est-à-dire, elle a lieu si le marché le permet. Donc dans le cas où les prix montent, elle a lieu. Si à un moment où il y a une crise, comme il y a eu en 2008, il y a un effondrement des prix, et ben là elle n'a pas lieu. Ce qui fait que les marges en fait des aciéries de grandes ranches se sont effondrées. Donc actuellement on est à 25% de le prix de revient de l'acier est 25% moindre de ce qu'il était il y a quelques années. Et donc là on a un problème quand même, c'est qu'effectivement comme on n'a pas su définir une politique industrielle, et si tu veux définir des secteurs stratégiques quand même, parce que l'industrie est stratégique, qu'on en dise, il y a un économiste qui rappelait qu'en valeur ajoutée la valeur ajoutée, donc c'est ce qu'on gagne sur une fois qu'on a fini le produit, c'est pour l'industrie c'est à peu près 4 fois et demi le produit de base, alors que dans les services on est peut-être à 1,5. Et donc on voit bien que l'industrie est bien plus productrice de richesses que ne le sont les services.
Absolument. Et par rapport à ça, je voudrais, parce qu'on parle de la casse sociale là, c'est l'exemple excellent de Florange, par rapport à ça je voudrais vous citer les réactions des différents partis politiques, parce que c'est intéressant, parce que là t'es en train de pointer ce qui a été dit par un certain nombre de partis politiques. Je vais lire un certain nombre de réactions. Donc Marine Le Pen, présidente du Front National, estime que c'est un ultimatum posé par Mittal à l'État français. Et puis encore, la mollesse et l'indignité de la réaction du gouvernement héros. Et elle propose, elle, qu'on prenne le contrôle du site pour 1 euro symbolique. Ah, elle veut faire du protectionnisme intérieur. Intéressant.
Ah oui.
Intéressant. Enfin, non mais intéressant. Ensuite, le Parti communiste, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Ni le président de la République, ni le gouvernement ne peuvent accepter que la France se couche devant Mittal, l'exterminateur de la sidérurgie française. L'État a l'obligation, dans ce contexte, d'intervenir dans le conseil d'administration d'ArcelorMittal avec la puissance publique. Donc, et d'exiger le remboursement des millions de fonds publics versés à Mittal après les promesses non tenues de Nicolas Sarkozy. Ah, intervention de l'État et remboursement de ce qu'on vous a passé. » Une deuxième piste. Et alors, ce qui est intéressant, parce que... c'est intéressant parce que c'est un souverainiste, il est officiellement de droite, mais là il avait une analyse qui n'était pas fausse. C'est Nicolas Dupont-Aignan. Parce qu'il disait, moi, quand j'ai vu arriver Mittal, j'étais le seul député à l'Assemblée nationale à dénoncer ce baiser de Judas. C'est-à-dire que j'avais alerté le gouvernement et prédit qu'un jour Mittal sacrifierait les actifs français, c'est-à-dire Arcelor, Florange, pour augmenter sa rentabilité. Bien vu. À la même époque, et ça c'est intéressant, parce qu'on nous dit ultralibéralisme, le gouvernement allemand, bien plus malin, interdisait toute participation de Mittal dans son secteur sidérurgique. Tiens, tiens, tiens. Voilà des gens qui veulent faire l'ultralibéralisme et appliquer le traité de budgétaire européen avec « vous n'avez plus le droit de décider parce que la commission pense pour vous ». Mais d'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tiens, qu'est-ce que c'est étonnant.
Mais l'Allemagne protège son industrie.
Oui. Merci messieurs, cette émission va bientôt se terminer. Alors je rappelle quand même que nous sommes une émission de chômeurs, donc on va parler des chômeurs. Il faut, ce qu'il faut changer maintenant, donc arrêter immédiatement les radiations, le suivi mensuel personnalisé et l'offre raisonnable d'emploi. Arrêter tout de suite la sous-traitance de l'accompagnement des demandeurs d'emploi par des cabinets et des institutions privées qui utilisent l'argent public. Ça, c'est, il faut absolument arrêter ça. Il faut relever tous les minima sociaux. Voilà, ça c'est une chose. Nous ne demandons pas la lune, nous voulons vivre tout simplement. Alors je rappelle quand même que AC, dont nous sommes. Assez, il y a PARA, donc c'est la permanence anti-radiation, appui juridique, accompagnement, assemblée générale, permanence, etc. Tous les lundis, de 15h à 17h, Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, dans le 10e métro République.
Et il faut annoncer que le 9 octobre, manifestation pour la relance de l'emploi et de l'industrie.
J'allais le faire, merci Thierry. Très bien, cette émission se termine. Merci messieurs d'avoir fait cette émission. Merci messieurs dames de l'avoir écouté et entendu. Je vous dis à dans 15 jours.
La semaine prochaine, c'est Attaque.
Exactement, merci Ludo, merci à tous.
Bonsoir à tous.
Bisous aux filles et poignons aux garçons, ciao. Thank you.